fait la pression de menaces nucléaires sur l'Occident. Isabelle Dufour, est-ce que ce type d'accord ou de traité, finalement, permet vraiment d'empêcher l'escalade de la menace nucléaire ou pas?
L'escalade de la menace nucléaire, non, parce que, comme vous l'avez rappelé, les arsenaux sont suffisants pour détruire la Terre plusieurs fois.
Plusieurs fois, exactement.
Ça n'empêchera rien. Simplement, pour les États, il y a aussi un intérêt à limiter ce type d'armes, c'est qu'elles sont très coûteuses, et en avoir 500, 1000 ou 3000, finalement, ça revient un peu au même. Donc, dans un contexte où la confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, est là... Voilà, ça, je dirais, ça ne mange pas de pain de négocier un accord.
Ça n'a pas qu'une valeur symbolique.
Ça n'a pas qu'une valeur symbolique parce que les gens se parlent quand même, échangent sur leur stock, sur leurs procédures. Donc c'est important dans la rhétorique nucléaire de bien comprendre en fait le dialogue nucléaire de l'autre.
D'autant, Bertrand Badi, que l'Amérique de Trump était sortie d'un autre traité sur les missiles, pour le coup de plus faible portée. Vladimir Poutine en était sorti aussi. Autrement dit, est-ce que ces traités n'ont pas seulement une valeur aujourd'hui symbolique?
Oui, et je dirais que la non-reconduction a également une valeur symbolique. C'est-à-dire que c'était une façon, et ça, du temps de Trump, c'était quelque chose qui était patenté. Qui était,
pardon. J'avais oublié. C'est bien.
Il existe toujours.
C'est bien.
Et nous sommes là tout à fait en face de ce que l'on pourrait appeler une diplomatie populiste, c'est-à-dire où on ne parle pas tant à l'armement et aux conditions techniques de celui-ci qu'à sa propre opinion publique, un, pour marquer effectivement le défaut de confiance, et deux, pour montrer que la souveraineté l'emporte et la puissance l'emporte sur le multilatéralisme. Attention, il faut faire aussi avoir en tête qu'il n'y a pas que le jeu des superpuissances nucléaires, il y a les puissances nucléaires intermédiaires, et puis il y a ceux qui prétendent y accéder. Et là, la grande difficulté, c'est que la logique n'est pas la même. Il y a une logique russo-américaine, il y a une logique des puissances moyennes, et puis...
L'Inde, le Pakistan...
Absolument, et puis... Il y a une logique inversée, ce que j'appellerais la dissuasion à l'envers, de tous ces pays qui sont candidats à l'arme atomique sur le mode « si vous n'êtes pas gentil avec moi, je me dote de l'arme nucléaire ». Et c'est notamment l'histoire iranienne.
Isabelle Dufour, revenons à l'Ukraine. L'Allemagne va livrer des chars, la France va livrer des missiles. À quel moment une puissance devient co-belligérante, ce qui est une ligne rouge du point de vue de Vladimir Poutine?
Alors la livraison d'armes ne fait pas de l'État qui livre des armes une copartie au conflit. Vous pouvez livrer des armes, ça ne fait pas de vous un co-belligérant au sens strict. Il faudrait avoir des hommes en troupes constituées et une possibilité de commandement en fait soit de ses propres hommes
sur le sol ukrainien.
Mm-hmm. Après il y a différentes interprétations, mais le fait de livrer des armes ne fait pas de vous simplement
en même temps on entend parler d'armes défensives, ça fait toujours un drôle d'effet, comme s'il y avait les armes qui ne tuent pas et celles qui tuent. C'est une différence qui est factuelle.
Là, je rejoins totalement
Émeric,
effectivement, pour dire qu'il y a qu'une arme c'est fait pour tuer. Alors on peut l'utiliser pour se défendre ou pour attaquer, mais dans les faits et tactiquement, une arme c'est offensif. Après, quand les gouvernements utilisent le terme d'arme offensive ou défensive, ils font du signalement en fait. Ils disent simplement on livre des armes défensives, c'est-à-dire qu'ils disent on ne veut pas trop escalader le conflit, on veut juste que l'Ukraine puisse se défendre.
Et Brickelluin ?
Oui, je crois qu'il faut arrêter avec cette dichotomie, qui n'a aucun sens. Vous prenez un canon de DCA, vous pouvez le retourner au sol et tirer à vue sur les civils qui passent, quoi. Je crois que l'enjeu, il faut être très clair. On n'exporte pas des armes n'importe comment. Et le danger, peut-être le risque auquel on a pu être confronté avec le déclenchement du conflit en Ukraine, c'est de voir tous les États ouvrir les vannes. Et est-ce qu'ils ont ouvert les vannes en prenant en compte le respect de leur procédure nationale de contrôle? Est-ce qu'ils n'ont pas abaissé leur degré de vigilance? L'enjeu pour nous, il est très clair, que ce soit du côté ukrainien, du côté russe, il faut que le droit international humanitaire soit respecté, que les civils ne soient pas pris à partie, sinon on parle de crimes de guerre. Donc il faut se donner les moyens, lorsque l'on transfère ces équipements militaires, que ces équipements soient transférés entre de bonnes mains, que les gens soient formés aux règles de base du DIH, que les armes soient stockées correctement, qu'on sache dans quelle unité...
C'est quoi le DIH ?
Le droit international humanitaire, pardon. Les règles du droit de la guerre, faire en sorte qu'on fasse la guerre en protégeant les plus vulnérables.
Alors la Chine investit massivement aussi, plus 72% pour le budget des armées en 12 ans. Bertrand Badi, est-ce qu'il faut craindre cette augmentation ou est-ce que là encore ça fait partie d'un jeu d'équilibre ?
Bon, d'abord, la Chine est loin derrière les États-Unis. 294-295 milliards contre plus de 800 milliards.
Le pourcentage est spectaculaire, mais le chiffre en valeur absolue est loin derrière.
Et de même que le pourcentage en PIB ne place pas la Chine dans une situation, je dirais, plus menaçante que les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et il ne faut pas oublier l'autre dimension également, c'est-à-dire l'armement, les dépenses militaires comme façon de s'afficher médaille d'argent dans la compétition internationale, ça compte, le symbolique. Et troisièmement, savoir faire la distinction qui est essentielle pour la Chine entre l'espace régional et l'espace mondial. La Chine n'existe ou considère n'exister, vieil empire qu'elle est, que si elle a la maîtrise de son espace régional. Donc pour ça, il faut effectivement afficher des ressources militaires. Pas question de les employer au-delà, c'est une autre différence par rapport aux États-Unis.
Néanmoins, Isabelle Dufour, quand Xi Jinping disait en 2019 un siècle d'humiliation pour la Chine, ça suffit. Comment faut-il l'entendre par rapport à ce surarmement ?
Il faut l'entendre de façon inquiétante, je pense. Ouais. Et Taïwan, je pense, l'entend de façon très inquiétante. Et également, les prétentions de la Chine dans certaines eaux. Inquiète tous ses riverains, en fait.
Qu'il y a des et entraîne toute la région du sud-est
de fait, toute la région
à se réarmer, ouais. Le Japon,
absolument.
L'Australie.
Une dernière question, Frédéric.
À cette aune. Ouais. Ce qui est en jeu, là, c'est aussi le côté multilatéral. Vous parliez de l'enjeu régional de la Chine, c'est l'Indo-Pacifique, hein, dont on a beaucoup parlé, avec l'Australie, avec les fameux sous-marins. On a parlé à l'automne dernier. Aymeric Helluin, selon vous, ce qui est en jeu, c'est aussi cette multilatéralité, cette capacité des États-Unis à jouer le gendarme du monde, ou plus ?
Je crois qu'on assiste à une reconfiguration du monde. Aujourd'hui, on a plusieurs pôles. On a les États-Unis, on a la Russie, on a la Chine. On est dans un monde multipolaire, fragmenté, où les puissances sont fragmentées. Aujourd'hui, qui peut dire que la France est une puissance unique, robuste, sans faiblesse ? Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte l'évolution de ce monde. Donc le multilatéralisme doit être conçu pour assurer clairement le mandat qui a été confié à ces acteurs. Et je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto absolu sur la Syrie, par exemple. La Russie a bloqué toutes les résolutions appelant à saisir la Cour pénale internationale.
Ou les États-Unis sur Israël-Palestine.
Exactement. Donc il faut changer ce multilatérisme-là.
Très bien. C'est le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.